Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Carnet de Région, le magazine que vous propose des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et que vous retrouvez chaque semaine, cette semaine d'ailleurs, c'est Radio Lodev qui en assure la rédaction. Au sommaire, les gros travaux sur la 75 au sud de Lodev. L'autoroute s'est effondrée après les inondations du 12 septembre dernier. On en sait un petit peu plus quant au calendrier de réouverture. Nous irons à Montpellier, où les squatteurs et membres du collectif Utopia ont été délogés la semaine dernière du bâtiment qu'ils occupaient par les forces de l'ordre. Nous reviendrons sur la visite de Ségolène Neuville en Lozère. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion est venue inaugurer les nouveaux locaux du Cap Emploi. Le député de l'Hérault, Sébastien de Naja a choisi Pézenas pour faire un bilan à mi-mandat, nous l'entendrons. Nous vous présenterons le train climat. Il a fait escale lundi dernier à Montpellier. Et puis nous prendrons la direction de Saint-Hippolyte-du-Fort pour parler d'une démarche incroyable comestible qui propose d'occuper les espaces libres avec des plantes comestibles laissées à la libre cueillette de tous. Et puis nous irons dans la commune héraultaise de Saint-André de Sangonis qui s'apprête à fêter l'arrivée du haut débit enfin. Un mois après les inondations du 12 septembre dernier, le préfet de l'Hérault, Pierre de Bousquet, est venu à Lodev il y a une semaine rencontrer l'ensemble des élus du Lodévois-Larzac pour leur donner quelques informations supplémentaires après le classement de pas mal de communes en état de catastrophe naturelle, pour parler des indemnisations, pour tenter de les rassurer aussi face à l'ampleur des travaux qui les attendent et à la faiblesse des moyens qu'ont les petites communes. Pierre de Bousquet qui a également donné des informations sur l'avancée du chantier de l'A75 au sud de Lodev. On en sait un petit peu plus quant aux travaux et aux dates de réouverture.
La voie descendante qui a été très gravement endommagée sera rouverte à la circulation le 17 ou le 18 octobre prochain, ce qui permettra de basculer sur cette voie descendante la voie montante qui est aujourd'hui ouverte à la circulation sur une voie mais qui a besoin d'être elle aussi réparée. Et donc on aura une autoroute ouverte dans les deux sens sur une voie à partir du 17 octobre jusqu'à ce que la totalité soit réparée à une date qu'on estime aux environs du 20 novembre. C'est un chantier qui coûte 2,5 millions d'euros à l'État et qui a été mené dans l'urgence avec des entreprises qui vont travailler maintenant de 5h du matin à 22h le soir tout en respectant le code des marchés publics.
Par rapport à l'étude, donc effectivement, il faut prendre en compte peut-être ce genre de phénomène exceptionnel pour reprendre l'autoroute aujourd'hui. Elle était peut-être sous-dimensionnée, en tout cas le volet hydraulique a été mésestimé ou pas?
Cette autoroute a été construite dans les normes d'il y a une vingtaine d'années pour la partie héraultaise. Et donc la direction interrégionale des routes du Massif central, qui en a la responsabilité de gestion, se propose de refaire une étude sur la transparence hydraulique de cette autoroute pour être bien certaine des justes dimensionnements des ouvrages hydrauliques qui permettent à l'eau de la traverser de façon à ce qu'on ne crée pas par la présence même de cette autoroute qui par ailleurs est très bienfaisante, on ne crée pas quelques facteurs aggravants en cas d'orage trop important. Et c'est un des travaux qui vont être lancés à la fin de cette année pour un résultat de cette étude dans les 6 premiers mois de l'année 2016.
Pierre de Bousquet, le préfet de région et de l'Hérault, qui était à Lodev il y a quelques jours. Après l'expulsion, un manque de solution. Après une réunion avec le département, le CCS et la direction départementale de la cohésion sociale, aucune issue n'a été trouvée pour le collectif L'Utopia, collectif qui regrette l'absence de la métropole de Montpellier dans ses discussions. Les squatteurs et membres d'Utopia ont été délogés la semaine dernière par les forces de l'ordre. Depuis près d'un an, ils occupaient un bâtiment inoccupé à Montpellier, propriété du département. Riles, l'un des responsables du collectif, précise leurs revendications.
Premièrement, la mise à l'abri des personnes qui se retrouvent là dépourvues. Pas obligatoirement une mise à disposition de quelque chose, mais qui se débrouillent pour que ces gens-là soient mis à l'abri. Et on est même prêts, nous, à faire la gestion de cette organisation. Deuxièmement, la récupération de nos affaires qui sont restées à la DAS. Trois, du coup, notre projet. un CHRP, un centre d'hébergement à responsabilité partagée, avec une organisation, etc. C'est-à-dire qu'on veut ouvrir quelque chose, et parce que notre but quand même c'est certainement pas de remplacer et tout ça, mais de collaborer et de faire un truc ensemble, parce qu'aujourd'hui il y a une incompréhension entre la façon dont vous, les institutions voient la situation des personnes précarisées et la façon dont les personnes précarisées vivent cette situation. Et il y a vraiment un grand écart phénoménal entre ces deux façons d'appréhender la situation, et c'est ce qui fait une grosse problématique en termes de capacité d'inclusion. C'est-à-dire qu'ils veulent des dispositifs soi-disant incluants qui pourtant font l'expression d'une violence institutionnelle auprès des précarisés tous les jours, qui est abjecte. Et donc du coup, à un moment donné, faire une adéquation, donc faire travailler l'ensemble des services, et y compris sur... voilà, nous on avait prévu de mettre à disposition 10 places pour de l'hébergement d'urgence et 10 places en stabilisation. Et le dernier point, que à partir du moment où ils nous donnent leur accord, qu'ils nous donnent dans chaque institution, un individu référent. Depuis le début de notre action, on essaye d'avoir les pouvoirs publics pour essayer de penser ça conjointement, en collaboration.
S'ils refusent de vous mettre à disposition un bâtiment, ça va déboucher sur un utopia 3.
On ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'utilisent pas leurs bâtiments vacants. Quelque part, c'est l'escroquerie du contribuable sciemment orchestrée. C'est-à-dire qu'on dit on n'a pas les moyens de gérer la misère, ça nous coûte trop dans le budget. Et en même temps, on laisse pourrir sur pied un nombre de bâtiments phénoménal. J'ai croisé 4 bâtiments qui sont en disposition hébergement. Anciens internats ou des choses comme ça, et qui sont capables d'accueillir avec un minimum de rénovation, mais vraiment un minimum, hein, ces problématiques-là. Et donc le serpent se met hors la queue un peu trop souvent à mon goût, quoi.
Riles, un des responsables du collectif Utopia à Montpellier, au micro de Lauria Navarre d'RCF Hérault. Une autre réunion avec les pouvoirs publics devrait se tenir dans 3 semaines. Cette fois, le collectif espère la présence de la métropole ou de la mairie de Montpellier.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ségolène Neuville, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion auprès de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes, était en Lozère le week-end dernier. La secrétaire d'État a profité de sa venue pour participer avec Carole Delga à la fête de la Rose, mais aussi pour inaugurer les nouveaux locaux du Cap Emploi. Cap Emploi, c'est un réseau national de 107 organismes de placement spécialisés dédiés à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Priorité du président de la République, l'emploi, c'est aussi une question fondamentale pour les personnes en situation de handicap. Ségolène Neuville au micro de Ludovic Terrol de 48 FM.
Donc il y a des mesures symboliques du type la Cour des comptes, le Conseil d'État vont désormais avoir l'obligation des 6% pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis il y a des mesures plus structurelles, comme par exemple le triplement des accords d'entreprise concernant le handicap. Jusqu'à présent, il n'y en a pas du tout assez. Mais ça s'explique, en réalité, c'est que bien souvent, dans les conférences sociales, le handicap n'est pas pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle, avec la ministre du Travail, Myriam El Khomri, nous organisons dans les suites immédiates de la conférence sociale une table ronde au ministère du Travail sur ce thème spécifique. Et puis, une autre raison importante qui fait que les personnes en situation de handicap ont moins d'emplois que les autres, c'est qu'elles sont moins formées. Et donc la loi sur la formation professionnelle de mars 2014 joue aussi un rôle important, puisque les personnes handicapées vont pouvoir avoir, comme tout le monde, un compte personnel de formation qui sera abondé par les structures spécifiques du handicap. Et puis enfin, je travaille avec l'AGFIP et le FIPHFP sur des prestations d'accompagnement qui sont nouvelles, qui n'existent pas jusqu'à présent dans le handicap, puisque jusqu'à présent, ces deux fonds, vous savez, qui sont alimentés par l'argent qu'on paye quand on n'a pas les 6% de travailleurs handicapés, dans le public ou dans le privé. Ces deux fonds, ils financent essentiellement des adaptations au poste, mais qui sont souvent des adaptations pour des personnes qui sont en fauteuil roulant ou avec un déficit sensoriel, surdité ou cécité. Et là, ce que je travaille avec eux, c'est d'élargir ces prestations à d'autres types de handicap, handicap mental et handicap psychique en particulier, qui peuvent nécessiter, en fait, non pas une aide technique, mais un accompagnement humain, à la fois pour la personne, mais aussi pour l'entreprise qui l'emploie. Et donc ça, c'est extrêmement important, et ça devrait, je pense, aboutir dans les semaines qui viennent.
Au 1er janvier 2015, seulement 30% des bâtiments étaient accessibles aux personnes handicapées. D'après Ségolène Neuville, des mesures de simplification ont été inscrites dans la loi pour accélérer les chantiers.
Comment faire pour avancer ? Eh bien, nous avons mis tout le monde autour de la table et nous avons regardé pourquoi la loi n'a pas été correctement appliquée. La première des raisons, c'est que les normes imposées par la loi 2005 étaient trop exigeantes, trop compliquées. Avec des exemples simples, par exemple, dans un bâtiment, il fallait forcément que ce soit l'entrée principale qui soit accessible. Si un endroit faisait que c'était plus simple d'organiser l'accessibilité par une entrée secondaire, jusqu'à présent, ça n'était pas possible dans la loi. Nous avons simplifié un certain nombre de normes, en accord avec l'ensemble des fédérations professionnelles, des associations de personnes handicapées, justement pour que ce soit faisable, en fait. Pour qu'il n'y ait pas, par exemple, d'obligation d'ascenseur dans tous les restaurants qui ont une mezzanine. Jusqu'à présent, c'était ça. Il y a des tas de petits restaurants, ils ont une mezzanine, ils n'ont pas les moyens de mettre un ascenseur. Et donc, si le même service est rendu au rez-de-chaussée, désormais, il n'y a plus de nécessité de mettre un ascenseur. Donc, les normes ont été simplifiées. Et puis, deuxième élément qui a fait que la loi n'a pas été correctement appliquée, c'est qu'il ne s'est rien passé pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun accompagnement, aucun contrôle. Et tout le monde a été mis à la même enseigne, aussi bien une petite boulangerie qu'une grande multinationale qui a des dizaines et des dizaines de grandes surfaces.
Et pour différencier les différentes structures et les travaux à effectuer, il a été mis en place des agendas d'accessibilité programmés qui sont en train d'être déposés dans les mairies et les préfectures. On parle de politique dans ce carnet de région, direction Pézenas, où le député Sébastien Denaja faisait le bilan de son mandat il y a quelques jours. C'est là que Jordi Oumira Tomzak l'a rencontré pour Radio Pays d'Hérault.
Il a été élu député en juin 2012 et animé jeudi dernier une réunion publique à Pézenas devant une centaine de personnes. Objectif, tirer le bilan de ses 3 ans de mandat. Il, c'est Sébastien Denaja, le député PS de la 7e circonscription de l'Hérault, qui comprend les cantons d'Agde, Florensac, Pézenas, Servian, 7-1 et 7-2. Alors justement, après 40 mois de mandat, quel constat ? La réponse du député Denaja.
Une action constante et résolue, tout à la fois à l'Assemblée nationale, à Paris, pour représenter nos concitoyens le plus dignement possible, en étant très présent, là où mon prédécesseur l'était peu, et surtout aussi pour témoigner de mon action sur le terrain, qui n'est pas toujours la plus visible, c'est-à-dire la défense des dossiers qui concernent le territoire, les intérêts des habitants, faire la transparence aussi sur les dossiers de réserve parlementaire, parce qu'il y a toujours des fantasmes autour de ces sommes que les députés peuvent distribuer à des subventions ou des communes du territoire. Donc voilà, les réunions de compte rendu de mandat, c'est pas le moment d'un autosatisfecit, c'est le moment surtout de rendre des comptes. Voilà, ça porte bien son nom, parce que voilà, les responsables publics doivent d'abord répondre de leurs actes et de leurs actions, et c'est à ça que servait la réunion hier soir à Pézenas.
Autre point majeur de ce mandat, recevoir et entendre les préoccupations des Héroltais. L'emploi et le logement sont notamment au cœur des inquiétudes.
Trouver un emploi, trouver un logement aussi. 7 Héroltais sur 10, et dans ce territoire, on n'y fait pas défaut, 7 Héroltais sur 10 sont éligibles à un logement social. Donc ça, ce sont quand même les préoccupations premières de nos concitoyens. Alors le député n'a pas le rôle le premier en la matière. Je ne suis pas, moi, directeur d'un office HLM ou chef d'entreprise, mais on essaye aussi d'apporter des réponses et de se battre sur ce front-là. Je l'ai été, par exemple, aux côtés du zoo qui s'est implanté à Saint-Tibéry, qui est aujourd'hui d'ailleurs en grande difficulté financière. Et j'essaye avec la chambre de commerce de Béziers, avec la sous-préfète qui est en ce moment chargée par intérim de ce dossier, de voir quel va être le sort des salariés. C'est voilà, aussi concret que ça, pour voilà, se battre sur ce premier front qui est celui de l'emploi, celui du logement qui lui est consubstantiel. C'est ça la préoccupation première des concitoyens sur ce territoire.
Et justement, quelles sont les solutions que vous comptez mettre en place en matière d'emploi ?
Alors, il y a eu des premières propositions et dispositions qui ont été adoptées. C'est par exemple notamment les emplois d'avenir. Il faut le rappeler quand même, parce que c'est des emplois publics, mais c'est surtout des emplois donc, où l'État paye 75% du salaire, la collectivité ou l'association prend le reste, et sur le territoire, c'est près de 150 jeunes qui étaient au chômage et qui maintenant, quand même, depuis 2 ans, ont un emploi, un salaire, la capacité à acheter un véhicule, à se loger, à partir de chez leurs parents, à vivre.
Enfin, à la veille des régionales, Sébastien Denaja se dit prêt à soutenir Carole Delga, la candidate PS en binôme avec le président de la région Languedoc-Roussillon, Damien Allary. Et lorsqu'on lui parle d'une gauche divisée, le député répond :
la gauche, vous savez, elle sera rassemblée. Elle sera rassemblée au moment voulu face à l'extrême droite, dont on ne souhaite pas qu'elle dirige la région qui avait vu naître Jean Jean Jaurès ou Léon Blum. Donc j'ai aucune inquiétude sur le rassemblement de la gauche au moment opportun. Et donc elle part chacun sous sa bannière au premier tour, mais ce n'est pas une inquiétude pour moi. Donc la problématique numéro un, c'est justement de motiver les gens pour cette élection, parce que c'est une élection importante qui va décider du sort ensuite des lycées, des transports publics, de la question environnementale, du développement du tourisme, surtout de la question économique, c'est la vocation première des régions. Donc tout le monde devrait comprendre l'enjeu qui est vital pour nous. Et oui, je vais soutenir fortement Carole Delga parce que je pense que d'abord c'est une femme, ça sera une première historique sur ce territoire d'avoir une présidente. Et parce que je pense aussi que nous avons, nous, porté, notamment socialistes et radicaux, l'idée de cette union des deux régions, et je pense que ce sera très profitable pour notamment l'emploi ici.
Sébastien Denaja, le député de la 7e circonscription de l'Hérault, au micro de Jordi Oumira Tomezac de Radio Pays d'Hérault. Le train du climat a fait escale le lundi à Montpellier, sur le quai F, en gare Saint-Roch. Ce n'étaient pas des contrôleurs, mais bien des scientifiques qui ont accueilli les visiteurs. À bord du train, une exposition pour mieux comprendre les mécanismes du climat, mais aussi l'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique. Thomas Lauré y était pour RCF.
Panneaux informatifs, messages vidéo, écrans interactifs, tous les outils pour mieux comprendre les phénomènes liés au réchauffement climatique. Pour Béatrice Corp, responsable scientifique de l'exposition, la connaissance permet d'éveiller les consciences.
Les gens sont très heureux, ils disent « on a compris l'urgence ». C'est ça qu'apporte le discours des scientifiques. Les scientifiques sont détenteurs de la connaissance la plus objective sur le climat. C'est cette confiance qu'il faut donner aux gens dans cette parole scientifique.
Les connaissances sur le climat, Alain n'en manque pas. Scientifique à la retraite, il espère que cette exposition profitera à la jeune génération.
Je pense que ça peut toucher des scolaires, c'est surtout les jeunes qui sont en première ligne, c'est eux qui subiront le dérèglement climatique. Donc j'espère que c'est une prise de conscience.
Et justement, des lycéens spécialisés en écologie et agronomie ont fait le déplacement. Parmi eux, Duham et Ludovic, bien conscients des enjeux.
En sortant du train, on va avoir une vision différente sur le climat.
Ouais, ça me permet de prendre peut-être plus conscience de ce qui risque de se passer et si on fait rien.
Le train du climat poursuit sa route après 8000 km à travers la France, terminus à Nancy le 25 octobre.
Un reportage de Thomas Lauré pour RCF Hérault. Incroyable Comestible est un mouvement originaire d'Angleterre qui propose d'occuper les espaces urbains délaissés avec des plantes comestibles laissées à la libre cueillette de tous. En échange d'arrosage et d'entretien, à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans le Gard, les associations La Fourmi et la Cigale ainsi que Semeurs de Jardin font vivre cette initiative. Radio Escapade a suivi Karine, Véronique et Salomé dans leur jardinage.
Donc on va juste voir si ça a poussé, s'il faut éclaircir, désherber, tout ça. Arroser, c'est un peu tard là, ça va griller si on arrose maintenant. Les incroyables comestibles, ils sont nés en Angleterre, ça fait plusieurs années. Le principe, c'est de semer, de planter un peu partout en ville, sur des espaces publics qui appartiennent à tout le monde. Tout le monde peut arroser, planter, semer, entretenir et tout le monde peut cueillir, ramasser et consommer. L'idée, c'est pourquoi pas de devenir autonome dans chaque ville au niveau de sa nourriture.
Donc là, devant l'école maternelle de Saint-Hippo, eh bien, on a des fraisiers. On a des radis noirs,
radis d'hiver.
Des tomates, elles sont pas trop en forme, hein. Les plantes de tomates sont pas
trop
en forme.
Ouais. C'est la fin, je pense qu'on pourra
faire ça. C'est quoi ?
Là, il y a de la roquette aussi pour faire ces petites salades. Et alors,
des fraisiers. Oui.
Il y a encore des radis aussi là.
Il y a des fraisiers. Il y avait des épinards, mais on dirait que ça n'a pas trop fonctionné, les épinards.
Il y en a un là.
Il y a de la mâche aussi.
Qui est encore toute petite.
Voilà.
Il n'y a pas de menthe.
Il
vaut mieux la mettre à part parce qu'elle va prendre tout l'espace.
Et mais il y a des fraises qui sont rouges. Hein.
Ouais, elle commence à bien rougir. Vous n'avez pas peur d'en parler à la radio parce que tout le monde va venir se servir. Il n'y aura plus rien après.
C'est le principe.
c'est ça l'idée, c'est de trouver des espaces disponibles aussi pour planter. Pourquoi pas devant chez soi, dans des pots. En Angleterre, c'est amusant. Enfin, les gens plantent dans toutes sortes de contenants. C'est pas un souci, quoi. Et si le mouvement prend, après, la commune aussi peut peut-être proposer des petits espaces. Voilà, enfin, c'est pour faire du lien entre les gens aussi. Ça a très bien marché en Angleterre, les gens font des repas de quartier, ils sont questionnés justement sur l'agriculture là-bas, où ils en sont, parce qu'il y a beaucoup de denrées qui viennent de l'extérieur, se réapproprier un petit peu sa nourriture, quoi, voilà. Un moyen de prendre conscience un peu de ce qu'on mange. Puis c'est plutôt convivial et sympathique. Au lieu d'avoir des espaces qui sont juste en friche ou
en pelouse,
ou voilà, de plutôt mettre des choses qui se mangent. Ça peut être aussi planter des arbres fruitiers. Même si on est en milieu rural, c'est pas toujours possible de jardiner. Il y a aussi donc des personnes de la maternelle qui sont
les enseignants
qui font aussi le relais, qui s'en occupent.
Ah, et qui viennent voir avec leurs élèves.
C'est ça.
Donc c'est un rôle pédagogique alors.
Absolument,
aussi.
Absolument, oui.
Là, on est devant le dojo, dans un petit espace public de terre qui était vide depuis plusieurs années et que du coup, le mouvement Incroyable Comestible a investi.
Ouais, là, c'est vraiment un carré, quoi.
C'est un petit carré.
C'est un carré, il doit faire un mètre carré juste à proximité du parking, en fait.
Voilà, c'est ça.
Au milieu du macadam, quoi.
C'est l'idée. D'investir tous les petits coins possibles.
Ouais, ça fait de la verdure, quoi.
De la verdure comestible.
Un reportage de Pierre Isnard Dupuis pour Radio Escapade.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
C'est un véritable événement pour la commune héraultaise de Saint-André-de-Sangonis, à quelques kilomètres de Gignac, l'arrivée du haut débit. Depuis plusieurs années, les habitants et professionnels se plaignaient de la mauvaise qualité de leur connexion Internet. Dans quelques semaines, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Pour Alain Vary, conseiller municipal en charge du haut débit à Saint-André, l'heure est aux réjouissances.
Bah, il faut fêter ça. Ça fait une quinzaine d'années que les Saint-Andréens attendent du haut débit sur la commune. C'était la seule commune de cette importance dans la vallée de l'Hérault qui n'était pas équipée en haut débit. Donc je pense que c'est un événement remarquable. Et puis en plus, ça leur fera un beau cadeau de Noël, quoi, d'avoir le haut débit à la maison.
Noël avant l'heure, puisque l'arrivée de la fibre optique, c'est pour le 3 novembre. À compter de cette date, les Saint-Andréens pourront souscrire à une nouvelle offre.
La majorité du village sera en ce qu'on appelle nous le VDSL, c'est-à-dire aux alentours de 50 mégas. Le reste du village sera dans les offres 20 mégas des opérateurs. Alors le 3 novembre, ça va être commercialisé et les habitants vont devoir appeler leur opérateur pour pouvoir changer leur contrat et leur modifier leur accès en fonction de leur desiderata, puisque ça va ouvrir une multitude de possibilités qui étaient jusqu'à maintenant refusées.
Et justement, parmi ces possibilités, la télé ou encore le téléphone via Internet. Estimation de ces 9 mois de travaux, environ 35 000 euros, en partie subventionnés par la communauté de communes et l'opérateur. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous le 6 novembre pour la soirée inaugurale du haut débit. Ça se passera à la salle des fêtes de Saint-André-de-Sangonis à partir de 18h30. Un sujet réalisé par Jordi Oumira-Tomzak de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Voilà pour le carnet de région. Cette semaine, le magazine que vous propose des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce carnet. Merci à toutes celles et ceux qui le diffusent régulièrement sur leur antenne. Cette semaine, c'est Radio Lodève qui en a assuré la rédaction. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.